إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on est arrivé aujourd'hui au cours numéro 7 dans l'explication du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، avec le livre écrit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan dans son livre qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala Iqtida Sirat al-Mustaqim. Donc on est arrivé aujourd'hui à la partie où le Cheikh il va maintenant parler de l'état des gens avant l'islam. Il va parler de l'état des gens, l'état du monde, comment les gens étaient avant la venue de l'islam. Et c'est le point numéro 16, ou la partie numéro 16. Donc, le chapitre en question, c'est « Halun nasi qabla l'islam ». Cheikh Al-Fawzan, il dit « La Buddha min matla'i hadhal, fi matla'i hadhal kitab min bayani halatin nasi qabla bi'athati rasuli sallallahu alayhi wa sallam » وما كانوا عليه من الكفر والضلال والأمور التي كانت سائدة في الجاهلية وما كانوا يتخبطون فيه من الجهل ليستبين المرء عظيم نعمة الله ومنته على عباده ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولمقارنة حالتهم هذه بما جد لهم بعد الإسلام وليظهر الفرق المبين بين الحالتين. Donc le cheikh il dit au début de ce livre il faut absolument clarifier l'état des gens avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et expliquer ce que les gens suivaient comme mécréance et comme égarement, et expliquer également ce qui se passait et ce qui était courant. Qu'est-ce qui se passait couramment dans la société de la jahiliya? Qu'est-ce que les gens avaient et l'ignorance dans laquelle ils étaient en train de patauger et dans laquelle ils étaient noyés, pour clarifier, pour que ce soit clair pour la personne qui est musulmane aujourd'hui et qu'elle réalise la grande grâce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a faite et la grande faveur qu'il a fait à ses serviteurs après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés de cette ignorance et de cet égarement-là. Et après, on est capable de faire une comparaison, on est capable de faire une comparaison entre comment les gens étaient avant l'islam, puis comment l'islam est venu changer cette situation-là et la différence entre les deux états. Avant l'islam, puis qu'est-ce qui est arrivé après l'islam. Et après, on est capable de voir la grande différence entre les deux situations. Et il dit, après le cheikh, il dit « وَلِي أَجْلِي أَنْ يَحْذَرَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَنْ يَعُودُ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةِ بَعْدَ أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْلَامِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرْ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا تُنْقَدُ عُرَى الْإِسْلَامِ عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية أو من لا يعرف الجاهلية. Et donc, le but de comparer ces deux états-là et de connaître la période pré-islamique pour savoir comment les gens vivaient à l'époque, c'est dans le but de faire en sorte que les musulmans prennent garde pour ne pas revenir à quoi que ce soit de ce que les gens faisaient dans la période pré-islamique après que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait la grâce de les guider à l'islam. Et Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il avait l'habitude de dire une parole. Et cette parole, c'est la suivante, que l'anse de l'islam ne cessera de s'effiler, ou bien la corde ou l'anse de l'islam ne cessera de s'affaiblir. Tant que, à partir du moment que naissent dans l'islam et grandissent dans l'islam, des gens qui n'ont pas connu la jahiliya, c'est-à-dire sans avoir connu comment les gens étaient avant l'islam. Et on va expliquer en détail, le cheikh il va expliquer ça en détail par la suite. Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق على فترة من الرسل وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبل مبعثه. Donc le cheikh, il explique dans le passage numéro 17, Ibn Taymiyyah, il dit dans le passage numéro 17: sache que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la création après qu'il y ait eu une grande période de temps sans qu'il y ait de messager, c'est-à-dire entre Isa alayhi salam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a à peu près 600 ans d'espace, d'écart entre les deux. Donc c'est une période très longue, entre laquelle il n'y a pas eu de prophète, il n'y a pas eu de messager. Et à partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a détesté les habitants de la terre, les Arabes et les non-Arabes. Il les a toutes détestés, excepté un petit restant parmi les gens du livre qui sont morts, ou la plupart d'entre eux qui étaient morts avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit: Inna Allah jalla wa ala ba'atha Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khatam an-nabiyyin wa imam al-mursalin ila an-nas kafatan wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qabla bi'sat qablahu yub'ath ila qawmihi khassa wa kana an-nabiy qablahu yub'ath ila qawmihi khassa وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام التي لا يشابهه فيها نبي قبله. Donc le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant le dernier des prophètes et l'imam des messagers. Il l'a envoyé à tous les hommes sans exception, alors que les prophètes qui étaient envoyés avant lui étaient envoyés à un peuple en particulier. Tandis que une des particularités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que il était envoyé à tous les hommes. Et ça, c'est une particularité dans laquelle aucun autre prophète avant lui ne lui ressemble. C'est quelque chose qui est spécifique. Le cheikh, il dit ensuite: wa qawluhu qad maqata ahl al-ard al-maqtu ashadd al-ghadabi والمراد أن الله نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأبغضهم عربهم وعجمهم لما هم عليه من الكفر والضلال وانطماس آثار الرسالة فيهم فأضحوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء فرحمهم الله ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Donc le cheikh il dit, puis que Ibn Taymiyyah a dit ensuite, et il a détesté tous les hommes sur terre, tous les habitants de la terre, il les a tous détestés. Et le terme que Ibn Taymiyyah a employé, c'est maqata. Et maqata, ça veut dire avoir une haine et une colère très forte. Ashadd al-ghadab. Donc c'est la grande colère. Donc il était en grande colère contre les habitants de la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les habitants de la terre avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a été en grande colère contre eux tous, qu'ils soient arabes ou non arabes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, ils étaient dans un état de kufr et d'égarement, yani très grand, et ils avaient oublié ou perdu les restes et les traces de la prophétie qui leur avait été envoyée par les prophètes précédents. Donc il restait plus de traces de la guidance. Alors les gens étaient devenus, yani, ils étaient perdus dans une ignorance profonde et un égarement aveugle, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait miséricorde en leur envoyant ce messager, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit lui-même dans le verset 108 dans Sourate Al-Anbiya, et nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Le verset 108 dans Sourate Al-Anbiya. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite le shaykh? Il dit « وعبارات الشيخ هذه إنما استنبطها من الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه وأوله قال صلى الله عليه وسلم ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وأن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم الحديث. Donc le cheikh il dit que les expressions qui sont mentionnées dans cette partie par le cheikh Ibn Taymiyyah, il les a en fait extraites d'un hadith authentique qui est rapporté par l'imam Muslim dans son hadith, dans son recueil de hadith authentique. Et dans le hadith en question dit au tout début que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Mon Seigneur m'a ordonné de vous enseigner ce que vous ignorez de ce qu'il m'a enseigné aujourd'hui. » Et il a dit « Tout ce que mon serviteur prend, et tout ce que mon serviteur a gagné ou a trouvé, c'est quelque chose qui est halal pour lui. Et je l'ai trouvé, c'est-à-dire j'ai créé mon serviteur Hanif. » Je les ai tous créés hanif ou hunafa. Hunafa, c'est-à-dire avec la nature du tawhid. C'est-à-dire qu'ils sont naturellement inclinés vers l'unicité d'Allah et vers l'adoration d'Allah seul. Et naturellement, ils s'écartent naturellement de l'idolâtrie. Sauf que les diables leur sont venus et les ont éloignés ou retirés de leur religion. Et ils leur ont interdit ce que je leur avais rendu halal, et ils leur a ordonné, et ces diables leur ont ordonné ou commandé d'associer avec moi ce au sujet duquel il n'y a pas aucune preuve et autorité. Et Allah a regardé les habitants de la terre et il les a tous détestés, arabes et non arabes. Et ça c'est la fin, c'est le hadith en question. Qui est rapporté dans Sahih Muslim selon Ayyad ibn Himar al-Mujashi'i. Oui, c'est ça. Donc il dit faqawluhu illa baqaya min ahli al-kitab kanu mutamassikina bima alayhi Musa wa Isa alayhi as-salatu was salam wa din al-anbiya jami'an at-tawhid walakin hadhihi al-baqaya inqaradu qabla al-bi'tha أي ماتوا ولم يبق منهم أحد أو بقي قليل منهم. Donc le cheikh il dit que ensuite Ibn Taymiyyah a dit excepté un petit restant des gens du livre, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient restés accrochés réellement à ce que Moussa alayhi salam avait enseigné ainsi que Isa alayhi salatu wassalam. Mais comme il dit le cheikh, la religion de tous les prophètes c'était le tawhid. Donc eux, ils s'étaient restés accrochés à l'enseignement réel et yani, qu'est-ce que les prophètes Moussa et Issa avaient réellement enseigné, mais ils étaient juste un petit nombre. Et la plupart d'entre eux étaient disparus avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien soit ils sont morts avant qu'ils viennent, ou bien il en restait un petit nombre, vraiment peu d'entre eux qui étaient encore vivants. Et le cheikh, il dit ensuite, Ibn Taymiyyah dans le passage numéro 18, il dit « وَالنَّاسُ إِذَّاكَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ إِمَّا كِتَابِيٌ مُعْتَصِمٌ بِكِتَابٍ إما مبدل وإما مبدل منسوخ ودين دار دار دارس ودين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. Donc qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah ici? Les hommes à cette époque étaient une des deux catégories suivantes. Donc il va diviser les gens en ceux qui avaient reçu un livre et ceux qui n'avaient pas reçu de livre. C'est-à-dire ceux qui étaient là juste avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes étaient divisés en ces deux catégories-là. Soit des gens qui ont reçu un livre et d'autres qui n'ont pas reçu de livre. Sauf qu'il va faire des divisions ou des catégories dans chacun de ces deux groupes-là. Il va mentionner des détails. Ok? Donc, donc il dit les hommes étaient des deux catégories suivantes. Soit que c'était des gens qui ont reçu un livre et qu'ils s'accrochaient à ce qu'ils avaient comme livre, sauf que leur livre était falsifié, ou bien falsifié et abrogé. Soit qu'il était falsifié carrément, ou bien non seulement falsifié, mais en plus abrogé. Et qu'il suivait une religion qui était déjà oubliée ou perdue. Donc ils avaient beaucoup d'enseignements de leur religion qui avaient été oubliés et perdus. Beaucoup d'entre les parties de cette religion qu'ils suivaient avaient été complètement oubliées et ignorées et abandonnées. Donc ça c'est pour les gens du livre, ceux qui ont reçu un livre. Ceux qui ont reçu le livre, ils disent à leur sujet, soit qu'ils suivaient un livre qui était falsifié, ou abrogé, ou perdu, oublié, ou abandonné. Donc ça c'est l'état des gens du livre. En ce qui concerne les gens qui n'ont pas eu de livre, ce qu'on appelle al-umiyoun, ceux qui étaient, on les appelle les illettrés, c'est-à-dire c'est des peuples qui ne se basent pas sur un livre ou sur de l'écrit. Leur tradition, c'est souvent des traditions orales. Al-Ummiyoun. Ummiyoun. Le Ummiyoun, c'est pluriel. Ummiyoun, c'est singulier. Ummiyoun et Ummiyoun. Naam. Donc, Al-Ummi, c'est celui qui est illettré. Il n'y a pas de livre. Il n'a pas reçu de livre. Et il se base souvent sur des traditions orales. Beaucoup des peuples, ils se basaient sur des traductions orales, ils n'avaient pas d'écriture. Donc ça, c'est comme l'exemple des Arabes et des non-Arabes. Et ceux-là, ils se tournaient vers toutes les formes d'adoration qu'ils trouvaient comme étant bonnes. Et ils se tournaient vers toutes sortes de divinités qui sont basées sur des fausses croyances, des histoires, des superstitions, des fables, des mythes, de la mythologie, toutes sortes de fausses croyances. Ils se basent là-dessus pour interpréter le monde et pour expliquer qu'est-ce qui se produit dans le monde. Donc ça, bien entendu, c'est les gens qui n'ont pas reçu de livre, comme les Arabes de l'époque et d'autres peuples également sur la terre. Donc ils pensaient que cela pouvait leur profiter. C'est-à-dire qu'ils pensaient que le fait d'adorer ces différentes choses pouvait leur venir en aide et leur donner du bien. Soit qu'ils adoraient des étoiles, ou une idole, ou une tombe, ou une statue, ou des choses de ce genre. Ok? Cheikh Al-Fawzan, maintenant, il va expliquer ce passage-là. Cheikh Al-Fawzan, il dit « وَلَقَدْ كَانَ النَّاسُ عَلَى قِسْمَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَةِ قَبْلَ بِعْثَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَهُمْ إِمَّا أَنْ يَكُونُوا أَهْلُ كِتَابٍ فِي الْأَصْلِ ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا في كتابهم فلم يعد صالحا للعمل به، لأنه مبدل ومغير ومحرف، وإما غير محرف لكنه منسوخ لا يجوز العمل به. Donc le cheikh il dit, et les gens à l'époque de la Jahiliya, les gens à l'époque, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la Jahiliya, et le mot Jahiliya ça vient du mot Jahl, qui veut dire l'ignorance. Hein? Donc Al-Jahiliya ça vient de Al-Jahl, de l'ignorance. Et l'état de l'ignorance, c'est-à-dire l'état où les gens n'avaient plus de guidance de la révélation d'Allah. Et après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Ibn Taymiyyah va l'expliquer plus tard, il va dire, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de jahiliya absolue. La jahiliya est seulement, relative. Elle est seulement relative. C'est-à-dire qu'elle peut se trouver en partie dans une personne, ou dans un aspect ou une caractéristique, mais pas de façon absolue, générale, dans le sens qu'il y a l'ignorance totale, non. Puisqu'on a toujours le Coran et la Sunna, donc la Jahiliya, elle n'est pas totale et absolue. Donc, les gens étaient de deux catégories avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de la Jahiliya, ils étaient de deux catégories. Soit qu'ils étaient parmi des gens qui avaient reçu un livre à la base, mais que ce livre-là avait été falsifié, changé, ils n'avaient plus leur livre qui était tel qu'il était à l'origine. C'est plus le vrai livre qu'ils avaient et qu'ils suivaient. Et le livre qu'ils avaient, c'était un livre qui avait été changé et falsifié et modifié. Et donc, à cause de ça, ils ne servaient plus à rien. Ils ne pouvaient pas être suivis pour être appliqués correctement. Même si tu voulais te baser sur ce livre, subhanallah, il ne pouvait pas te servir vraiment pour te guider et t'orienter vers la vérité. Et comme je ne sais pas si j'en ai parlé au dernier cours, mais j'avais parlé du fait que lorsque les premiers chrétiens avaient commencé à traduire leur Bible, parce que la plupart des Européens, les pays aujourd'hui comme l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Hollande, et les pays du Nord également, comme la Norvège, la Suède, tous ces pays-là, ils n'étaient pas chrétiens. Ils n'étaient pas chrétiens à la base. C'était des peuples qui adoraient des idoles, qui adoraient des esprits, qui adoraient des statues, qui croyaient en la sorcellerie, en la magie. Okay? Et ces peuples-là, ils ont été christianisés par la suite. Ils ont été christianisés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus chrétiens plus tard. Puis, lorsque les premiers chrétiens ont commencé à la base, ils traduisaient tout. Tout était écrit en latin. Parce que c'est les Romains qui leur ont amené le christianisme. Les Romains eux-mêmes étaient des idolâtres aussi. Puisque les Romains adoraient Jupiter et puis Mars et toutes les étoiles, ils les adoraient, puis ils faisaient des statues, puis ils adoraient ça, comme les Grecs avant eux. Donc, les Romains sont venus par la suite avec celui qu'on appelle Constantin, le premier empereur qui s'est, à la fin de sa vie, converti au christianisme, puis il a amené le christianisme avec lui dans le reste des régions de l'Europe. Parce que les Romains ont colonisé plusieurs parties différentes de l'Europe par la suite. Donc, ils ont amené le christianisme avec eux. Et ils ont donc amené ça avec eux. Donc, la Bible que les gens avaient, que ce soit en France, en Angleterre ou ailleurs, c'était toujours en latin, écrit en latin. Et le peuple, la population, ils ne comprenaient pas le latin. Les seuls qui comprenaient le latin, c'est les gens haut placés et éduqués. Ceux qui avaient étudié, et les prêtres, les moines, et les rois, les gens qui avaient eu une éducation, eux parlaient le latin. Mais le reste du peuple, dans la rue, les fermiers, les artisans, les commerçants, les gens de la rue, eux, ils parlaient leur langue locale. Et donc, ils ne comprenaient rien de ce que les prêtres ou les autres racontaient. Et
les premières traductions qui ont été faites de la Bible, ça a créé des gros conflits à l'intérieur des chrétiens. Et même que les premiers papes, lorsqu'ils ont appris que des gens avaient commencé à traduire la Bible du latin à la langue de ces différents peuples-là, ils ont déclaré ceux qui ont traduit comme étant des hérétiques, et ils ont même ordonné d'être tués et d'être exécutés et d'être brûlés, hein. Et ils ont brûlé même des milliers de différentes traductions de la Bible qui avaient été faites. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était considéré comme un blasphème de vouloir traduire la Bible du latin à ces différentes langues-là. C'était considéré des langues basses. Alors que le latin lui-même, c'était une traduction, puisque Jésus ne parlait pas latin, hein? Et il parlait l'araméen et il ne parlait pas du tout le grec ni le latin. Donc, tout ça, c'est pour dire que pour eux, c'était un gros problème de faire ça. Alors que, alhamdoulilah, dans l'islam, le Coran était, au contraire, diffusé et partout, les gens apprenaient le Coran en arabe, les gens apprenaient l'arabe. Et les ulamas de l'islam, il y a beaucoup de fatwas qui existent, qui mentionnent que c'est permis de traduire dans la langue des gens. Et les premiers musulmans, lorsqu'ils arrivaient dans différents pays, que les gens ne comprenaient pas l'arabe, ils leur traduisaient pour que les gens puissent comprendre la parole. Hein? Bon, Allah al-Musta'an. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Le cheikh, il explique, il dit, donc soit qu'il suivait une religion qui avait un livre qui a été falsifié, qui était plus bon, ou bien qui avait été falsifié, et en plus, même il y en a d'autres qui, il y a des parties qui étaient falsifiées et d'autres parties qui étaient abrogées. C'est-à-dire abrogé par qu'est-ce qui est venu après, on devait plus ou on pouvait plus l'appliquer. Amma al-umiyyun falaysa lahum kitabun aslan fahum ya'ishuna ala jahlin muta'assilin min al-bidaya wa hadha yantabiqu ala al-arab li'annahum ummatun ummiyatun la yaqra'una wa la yaktubun wa laysa bi'aydihim kitabun wa innama كان المتعبد منهم إما أنه على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام وإما أنه متبع للديانة اليهود أو النصارى أو متبع لديانة المجوس فكانوا متفرقين في عباداتهم وأغلبهم ليس لهم انتساب إلى دين وإنما يعبدون الأوثان والأصنام والأشجار والأحجار أمة وثنية فهذه حالة الأميين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Donc en ce qui concerne les أميون, c'est-à-dire les illettrés, ceux qui n'ont pas reçu de, qui n'ont pas de livre à la base, eh bien eux, ils vivaient dans une ignorance établi depuis la base, hein, depuis le début. Ils étaient fondés dans l'ignorance depuis le début. Et ça s'applique aux Arabes, c'est-à-dire aux Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, vous avez des gens, par exemple, parmi les koufars, qui essaient dans tous les pays et dans toutes les différentes régions du monde de faire revivre la jahiliya que les gens avaient avant l'islam. Et donc, eux, quand ils parlent aux gens, ils disent: ah, on vous dit que avant l'islam, les gens étaient dans l'ignorance, c'est pas vrai. Il y avait une grande connaissance, une grande civilisation, ici, et ça, et ça. Donc, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de contrer la da'wah des prophètes, la da'wah de l'islam. Et aussi, par exemple, donc, c'est ça. C'est que la réalité, c'est ça. C'est que ces gens-là, ils ignoraient qui est Allah, qui est leur créateur, pourquoi ils ont été créés. Donc, ils sont dans l'ignorance de ça. C'est pas juste le fait de savoir quelque chose par rapport à la dunya, hein, comme on expliquait hier. Peut-être déjà ils avaient, par exemple, les Romains, ils avaient des développements sur le plan de certaines techniques, hein, l'architecture, les mathématiques, des trucs comme ça. Les Grecs aussi, ils avaient développé plein de connaissances de l'Égypte, hein, tout ça. Ils connaissaient des trucs de science, des trucs de calcul, de mathématiques, l'architecture. C'est ça, comme de nos jours. Mais c'est pas ça la science, la vraie science. La vraie science, c'est la science de savoir, Yanni, pourquoi on vit, qui nous a créés, c'est qui notre Seigneur, comment on fait pour l'adorer, qu'est-ce qui nous arrive à la mort, et où est-ce qu'on va, et qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer à qu'est-ce qui nous attend après, hein? Et de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram pour pouvoir vivre une vie qui est bien, qui est propre. Naam. C'est ça. Il y a ceux qui avaient un livre et ceux qui n'avaient pas de livre. En passant, juste pour ça, comme quand tu regardes même par exemple en Haïti, les voodooisants, tu vois, les voodooisants, ils ont pas de livre pour le voodooisme. Si tu demandes aux voodooisants, c'est quoi votre livre? Est-ce que vous avez un livre qui explique c'est quoi le voodooisme? C'est quoi les règles? C'est quoi le... Il n'y a pas de livre. Donc ça veut dire qu'ils peuvent inventer n'importe quoi là-dedans. Rajouter, enlever, faire qu'est-ce qu'ils veulent. Hein? Donc c'est ça la religion des mouchriquins. Et c'est ça exactement l'exemple des mouchriquins à l'époque même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes, ils adorent comme ça. Là. Ils inventent. Ils décident d'adorer ça ou d'adorer ça ou d'adorer ça. Les voodooisants, c'est la même chose. Ils ont des esprits, des lois qu'ils adorent, et puis ils disent lui c'est un tel, lui c'est un tel, lui c'est un tel. Ils inventent qu'est-ce qu'ils veulent, puis ils gardent les gens dans l'ignorance avec ces fausses croyances-là. Donc, il dit, ils vivaient dans une ignorance qui était fondée à la base sur l'ignorance, et ça s'applique aux Arabes parce que c'était une nation qui ne lisait pas et qui n'écrivait pas. Donc c'était des gens qui n'avaient pas de tradition écrite, c'était une traduction orale seulement. Et ça explique pourquoi les Arabes étaient si forts dans la poésie et comment ils mémorisaient des longs poèmes, et que c'était de cette manière-là qu'ils se transmettaient leur histoire de génération en génération, hein. Il y a beaucoup de peuples comme ça. Walaysa bi'aydihim kitab, ils n'avaient pas de livre qu'ils suivaient, mais ils faisaient qu'adorer qu'est-ce qui restait parmi eux. Il y en avait qui restaient sur les restants de la religion d'Abraham. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait partie de ceux qu'on appelle al-hunafa, ceux qui n'adorent pas d'idoles. C'est ce qu'on appelle al-hunafa, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur les restes de la religion d'Abraham. Okay? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie de ceux-là, al-hunafa, le pluriel de hanif. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un hanif, c'est-à-dire quelqu'un qui se détourne de l'idolâtrie et de l'adoration des idoles. C'est le pluriel de Hanif. Naam. Pluriel de Hanif. Et Al-Hanif, ou bien Al-Hanifiyya, on dit Al-Hanifiyya, c'est la religion d'Abraham. Et celui qui suit la religion d'Abraham, on peut l'appeler un Hanif. C'est-à-dire quelqu'un qui s'écarte des idoles et qui adore que Allah seul. Exact. C'est celui qui est sur le Tawhid. Et le Tawhid, c'est la religion d'Abraham. Donc, il est sur l'adoration d'Abraham. Et Al-Hanif, ça vient, les ulama disent, ça vient de Al-Hanaf, qui veut dire pencher, hein, ou s'incliner vers. Donc, c'est ceux qui ont une inclinaison vers le Tawhid et qui s'écartent naturellement du shirk. Ok? C'est la religion du Tawhid, de l'islam, de la fitra, la religion d'Abraham, la religion des prophètes. Tout ça, c'est des synonymes. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que parmi ceux-là, parmi les Arabes, il y en avait aussi qui suivaient la religion des chrétiens et d'autres qui suivaient la religion des juifs. Il y en a d'autres qui suivaient la religion qu'on appelle la religion des Majus. Et les Majus, c'est la religion des gens qui vivaient dans l'Empire perse à l'époque. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran? À l'époque, ça s'appelait la Perse. C'était un endroit où les gens adoraient le feu, hein, puis ils croyaient qu'il y avait deux dieux, le dieu pour la lumière et le dieu pour les ténèbres. Le dieu du bien, puis le dieu du mal, puis ils croyaient qu'il y avait une guerre constante entre les deux. Hein, mais qu'à la fin, le dieu du bien allait gagner. Ouais, les Majus. Et le dieu qu'ils adorent, ils appellent Azura Mazda. Hein? Et ils ont un prophète, ou quelqu'un qu'ils considèrent comme un prophète, c'est Zoroastre. Hein? C'est pour ça que parfois on les appelle aussi les Zoroastriens. Ils ont plusieurs noms en tout cas. Donc ils les appellent Zartouche. En Iran aujourd'hui, Zartouche. C'est les Majus. Ok. Oui, ils adorent le feu. Hein? Ils adorent le feu, puis ils adorent. En tout cas, ils ont du shirk et de l'égarement aussi. Donc, ces gens-là, il y en a parmi les Arabes qui suivaient ceux-là. Et ils étaient tous divisés dans leurs adorations. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux qui étaient sur la même, vraiment la vraie croyance ou la religion entre eux. C'est comme aussi beaucoup dans qu'est-ce qui se passe ici, par exemple, au Québec. Dans le sens que, dans une famille, par exemple, même chez les Québécois de souche, qui sont nés dans une famille catholique, mais ils disent tous, oui, on est baptisé, on est catholique, mais dans la réalité, tu vois que chacun, il s'est fabriqué dans sa tête sa petite religion personnelle. C'est-à-dire, il va prendre un petit peu de chez les bouddhistes, un petit peu de chez les chrétiens, un petit peu de chez les catholiques, un petit peu de chez les athées, un petit peu de chez les New Age. Peut-être il va prendre un petit peu de l'athéisme, un petit peu des croyances New Age, ça veut dire les croyances ésotériques, là, les nouveaux mouvements spirituels. En tout cas, il mélange tout ça, tu vois. Puis là, il se fait sa petite religion dans sa tête. Il y en a d'autres aussi qui disent, bon, l'important c'est que tu fasses le bien, tu fais pas mal à personne, c'est ça qui compte, peu importe ta religion, c'est pas grave. Ou bien des affaires comme ça. Donc c'est pour dire, il y en a qui croient pas à l'enfer, il y en a qui croient à l'enfer, il y en a qui croient pas au paradis, il y en a qui croient au paradis, il y en a qui disent, ouais, je pense qu'il y a un Dieu, mais on sait pas, tu sais. En tout cas, c'est un exemple de jahiliya, ça aussi. Les gens qui savent pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent adorer, qu'est-ce qu'ils peuvent pas adorer. Soit ils se permettent de croire en tout, de faire ce qu'ils veulent, puis de dire si tu adores ça c'est bon, si tu adores pas ça c'est pas grave. Il y a rien qui est grave en fait. C'est la même chose que les mouchriquines de l'époque. Non. Là on parle des Arabes. Parmi les Arabes à l'époque, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient divisés entre eux. Il y en a qui suivaient ceux-là, il y en a qui suivaient ceux-là, il y en a qui suivaient ceux-là, tu vois. Il y avait tous des tendances différentes. Le cheikh disait tous divisés dans leur façon d'adorer, mais il dit la plupart d'entre eux, par contre, n'appartenaient pas à une religion quelconque. C'est-à-dire, ils ne se disaient pas appartenir à une religion spécifique. Ils faisaient juste adorer des idoles, adorer des arbres, adorer des pierres, adorer des statues. Hein? Donc c'était une nation idolâtre et païenne qui adore toutes sortes de livres, qui adore toutes sortes d'idoles et de divinités différentes. C'était ça l'état des gens avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam, humul umiyyun. C'est ça l'état des umiyyin avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, ça c'est ceux qui n'ont pas reçu de livre. Quand on dit les illettrés, dans le sens qu'ils n'ont pas reçu une révélation de Dieu dans un livre. C'est ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala les décrit dans le Coran, il dit dans la sourate Al-Jumu'ah, le verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui a envoyé parmi vous un messager d'entre vous ou d'entre eux. C'est lui qui a envoyé parmi les illettrés un messager parmi eux, ou de parmi eux, qui leur récite ces versets, qui les purifie, qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Donc le cheikh il dit, « فَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّاسِ قَبْلَ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْسُ عَلَى دِينَ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ حَرَّفُوا دِينَهُمْ وَغَيَّرُوهُ وَبَدَّلُوهُ وأدخلوا فيه من الوثنيات والشركيات ما أفسده والأميون ليس لهم كتاب أصلا فهم إما وثنيون مشركون وإما مقلدون كما قال تعالى وما آتيناهم من كتاب من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير والبقايا الصالحة انقرضوا أو كثير منهم قبل البعثة. نعم. Le cheikh il dit l'état des gens avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est qu'ils n'étaient pas sur une religion. parce que les gens du livre ont falsifié leur religion, ils l'ont modifié, ils l'ont changé. Et ils ont fait rentrer dans leur religion des aspects de la religion des païens et de l'idolâtrie et des formes de shirk qui est venu corrompre complètement leur religion. Comme par exemple, les chrétiens, ils adoraient Jésus, ils adorent Marie, ils adorent les saints. Ils ont mélangé la religion de Isa, la religion de Isa ibn Maryam, le fils de Jésus, le fils de Marie. Ils l'ont mélangé avec les croyances des Grecs et des Romains. Et ils ont mélangé ça pour dire qu'il y a trois dieux en un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et que ça faisait une trinité. Et ils ont ramené avec ça le dogme du péché originel. Pour dire que les hommes avaient fait un gros péché en désobéissant à Dieu, à l'époque de Adam et Ève, puis que pour effacer ce péché-là, il fallait que le sang coule, et donc il fallait sacrifier un sacrifice plus grand, et le plus grand sacrifice c'était que Dieu donne son propre fils en sacrifice pour l'humanité, donc en faisant égorger cet homme-là, ils disent que c'était l'agneau, un agneau, puis que son sang allait effacer le péché de l'humanité. Donc ils l'ont égorgé, ou bien ils l'ont crucifié, puis ils l'ont tué. Et c'est ce qu'ils disent, alors que on sait maintenant que c'est faux, puisque Allah dans le Coran il a montré que c'est pas vrai. Et oui, à l'époque il y avait que ces deux catégories là, ceux qui ont un livre et ceux qui n'ont pas de livre. Il n'y a pas d'autres catégories que celle-là, hein? Et donc les chrétiens, en plus de ça, tu les vois aujourd'hui, même ils ont, en particulier les catholiques, ils ont le rituel de l'Eucharistie. À chaque messe, quand ils font, ils prennent le calice, hein, ils mettent du vin dedans, et ils prennent les hosties, et ils disent que ce pain et le vin, en ce moment-là, ça se transforme en le corps de Jésus, puis le sang de Jésus, pour de vrai, puis que quand ils prennent, ils disent le corps du Christ, les gens, ils vont devant le prêtre leur donne le pain, hein, et il dit le corps du Christ, et ils le mettent dans leur bouche, et ils disent Amen. Hein. Avant, ils buvaient du vin aussi, ils donnaient du vin aux gens aussi pour boire, mais ils ont vu que ça coûtait trop cher, parce que le vin ça coûte cher, alors là, ils ne donnent plus de vin aux gens pour boire le sang. Mais quand tu réfléchis bien à ça, tu vois que ça, c'est une religion en fait qui appelle en même temps au cannibalisme, parce qu'ils mangent, ils disent qu'ils mangent la chair de Jésus, puis qui appelle aussi aux idées de vampirisme, c'est-à-dire l'idée de boire du sang d'un être humain, hein? Et donc, on peut dire que c'est une religion de cannibale et de vampire, hein? Puisqu'ils appellent à l'idée qu'on peut manger le corps d'un être humain, puis de boire son sang, c'est dégueulasse. Mais eux, c'est leur croyance et leur pratique religieuse, c'est ça. Donc, quand tu les vois, ces gens-là, avec leur fausse croyance qui vient en réalité, qui n'ont rien à voir avec la croyance de Jésus, qui n'ont rien à voir avec la religion des prophètes, mais ça, c'est des choses païennes. C'est les païens qui faisaient ça, qui buvaient du sang, qui mangeaient des êtres humains, ou bien qui faisaient toutes sortes d'affaires de shirk, de sacrifices humains, hein, à une divinité ou des choses comme ça, hein, sacrifier un homme sur une croix ou des choses comme ça, ça vient pas de la religion de Dieu. Mais ils ont interprété les choses pour essayer de faire croire aux gens que ça fait partie de la religion, alors qu'en réalité c'est des choses qui viennent des religions des idolâtres, pas de la religion des prophètes, pas de la religion de l'islam. Naam. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Il dit أينما الأميون ليس لهم كتاب أصلا فهم إما وثنيون مشركون وإما مقلدون. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit ensuite, ils ont fait rentrer dans la religion des aspects du paganisme et de l'idolâtrie et ça a corrompu leur religion. Et de même que les gens qui n'ont pas reçu de livre, les illettrés, les Ummiyoun, ils n'ont pas de livre à la base. Donc ce sont des païens, des idolâtres, des gens qui adorent toutes sortes d'idoles. Soit qu'ils font, ou bien soit que ce sont des gens qui imitent les autres nations. Soit que ils font juste adorer des idoles, ou bien soit qu'ils imitent les autres peuples, sans nécessairement croire à la religion de ces gens-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans le verset 44, dans sourate Saba, il dit وَمَا أَتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا. On ne leur a pas donné de livre qu'ils étudient. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Et on n'a pas envoyé vers eux avant toi un avertisseur. Ok. Et il dit le reste, il y avait un petit reste aussi qui était correct, qui était bon, mais ils étaient déjà morts. Ou bien la plupart d'entre eux étaient déjà morts avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لهذه حالة المؤمنين قبل البعثة أنهم كانوا يعبدون ما يستحسنوه ما يستحسنوه من الأصنام والأوثان والصنم هو ما كان على صورة حيوان أما الوثن فيعم الصنم والبقر والشجر والحجر فكل ما عبد من دون الله فهو وثن كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ومنهم من كان يعبد الجن أو الملائكة وبعضهم كان يعبد الأولياء والصالحين فكانوا متفرقين في عباداتهم لأنهم ليسوا على دين حق يجمعهم في عبادة واحدة وإنما كانوا يتبعون أهواءهم في عباداتهم حتى إن منهم من كان يصنع الصنم من التمر ويعبده ثم إذا جاع أكله. أي نعم. Donc le cheikh il dit ça c'était l'état des gens qui n'avaient pas de livre avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils adoraient tout ce qu'ils trouvaient comme étant bon parmi les idoles et parmi les choses qu'ils adoraient. Et il explique la différence entre le mot sanam et le mot wathan. Et la différence entre le mot sanam et wathan, en fait, c'est que on peut dire que tout sanam est un wathan, mais on ne peut pas dire que tout wathan est un sanam. Il y en a un qui est plus général que l'autre. Un sanam, c'est une pierre ou une roche ou quelque chose qui est sculpté à l'image de quelque chose. Donc c'est une statue qui est sculptée à une image, à sonam, avec sod, pas avec sin, avec sod, à sonam. C'est quelque chose qui est sculpté, donc il y a une face, il y a une image qui représente quelque chose, soit un animal ou un être humain ou quelque chose qui a une forme quelconque. Tandis que, ça peut être un animal, ça peut être un être humain, ça peut être autre. Amma al-wathan, en ce qui concerne le terme wathan, waw, fa, nun, ça c'est tout ce qui peut être adoré, mais c'est pas obligé que ce soit une statue ou une forme. Ça peut être une roche qui reste dans sa forme originelle, ou bien un arbre, une tombe. Une pierre, peu importe. Ils les prennent telles quelles puis ils les adorent. Sans que ce soit sculpté. Vous comprenez? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-wathan. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a sculpté ou gravé. On l'a fait en forme humaine, avec une. Ou bien une forme animale. On a sculpté, on l'a formé pour qu'elle ressemble à quelque chose. Tandis que al-wathan, non. C'est pas quelque chose qui a nécessairement une forme humaine ou animale. C'est quelque chose qui est gagné comme. Ça peut être une boîte, ça peut être une roche, ça peut être un arbre, ça peut être une tombe. Hein? Ça, c'est considéré aussi comme une idole. Al-wathan, oui, comme une croix, c'est al-wathan. C'est ça. Non, c'est ça, les statues de Marie, Jésus, les statues des hindous, là, que les hindous, ils adorent. C'est ça, des choses comme ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a dit, dans un hadith, « Oh Allah, ne laisse pas ma tombe devenir un wathan qui est adoré. » Un wathan, ça veut dire quelque chose qui est adoré, qui n'est pas nécessairement une forme, comme une forme d'idole, là, comme une statue, non. C'est quelque chose, même une tombe, ça peut être un wasan, ok? Parce qu'il y en a des gens, parmi les gens, ils pensent que si tu te prosternes devant quelque chose autre qu'une statue qui est sculptée, que ça, c'est pas grave. Non, ça aussi, c'est une idole. Et une idole, c'est pas nécessaire que ce soit sculpté, ou même que ce soit vivant, même ça, que ce soit mort, ça peut être vivant aussi. Des gens qui se prosternent devant un être humain qui est vivant et qui l'adore en dehors d'Allah, ça aussi c'est du shirk, c'est de l'idolâtrie. Il dit le shirk aussi, et parmi eux, il y en a qui adoraient les djinns et qui adorent les anges. Ça veut dire que tu peux même adorer des choses qui sont invisibles, mais c'est quand même de l'idolâtrie, même si tu dis, ben, j'adore pas une statue, hein? J'adore pas, comme les Haïtiens par exemple, quand ils font ils pratiquent le vaudouisme, ils adorent pas une statue, hein? Mais il y en a qui adorent des statues aussi, parce qu'ils ont rentré la religion catholique avec le vaudouisme. Donc ça veut dire maintenant tu les vois, ils adorent des saints, mais derrière les saints, en fait, ils adorent pas le saint, ils adorent les lois, mais à travers les saints, tu vois. Donc en réalité, c'est des gens qui adorent des idoles. Et même s'ils n'adoraient pas des statues, des saints, des catholiques, même malgré ça, ils sont aussi des idolâtres, parce qu'ils adorent des djinns, ils adorent des esprits, ils adorent des anges ou des choses comme ça. Et ça, c'est du shirk aussi. Oui, ça c'est l'awthan. Hein, ça c'est des awthan. C'est des awthan, na'am. Oui, parce que c'est des choses qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et tout ce que tu adores en dehors d'Allah, peu importe qu'est-ce que c'est, que ce soit visible ou invisible, que ce soit sculpté ou pas sculpté, yani, du moment que c'est pas Allah, c'est du shirk, c'est de l'idolâtrie. Non, al-wathan, on l'a dit, c'est quelque chose qui n'est pas sculpté ou travaillé par l'être humain. C'est ça. Awthan, c'est le pluriel de wathan. Awthan, c'est le pluriel de wathan. Et asnam, c'est le pluriel de sanam. Asnam, c'est le pluriel de sanam. Et awthan, c'est le pluriel de wathan. Ok. Et certains d'entre eux aussi adoraient des saints et des hommes pieux. Donc ils étaient divisés entre eux dans les objets de leurs adorations et les choses qu'ils adoraient. ولأنهم ليسوا على دين حق. Ils n'étaient pas sur une religion vraie qui les unit sur une adoration unique. Mais ils ne faisaient que suivre leurs passions dans leurs adorations. Jusqu'à ce que certains d'entre eux, ils faisaient même une idole avec des dates. Ils prenaient des dates. Et il construisait comme un genre de petite idole avec, un petit bonhomme. Et puis il l'adorait. Hein? Puis quand il avait faim, il mangeait. Il avait faim, j'ai faim, je le mange. Ça... Oui, oui. C'était attribué à Omar ibn Khattab, cette histoire. Donc, c'est pour ça, je veux dire, les gens qui font ce genre de pratique et de croyances-là, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Et des fois, ils savent eux-mêmes que qu'est-ce qu'ils font, c'est ridicule. Mais ils s'aveuglent eux-mêmes. Ils suivent leur passion. Et ça, tu le constates. Il y en a beaucoup d'entre eux. Et même les gens, il y en a, subhanallah, comme par exemple en Haïti. Moi, je sais, parce que dans ma famille, il y en a des vaudouisants aussi. Et quand tu leur parles, tu vois, c'est des gens, leur cœur devient dur. Leur cœur est devenu dur. Pourquoi? Parce que tu leur montres les preuves, tu leur expliques. Et ils ne veulent pas accepter. Hein? Puis quand tu commences à leur montrer que la fausseté de qu'est-ce qu'ils pratiquent, eux, pour essayer de changer le sujet ou détourner la vérité, ils te disent, ah ouais, toi, t'es la religion de Ben Laden, vous êtes des terroristes. Hein? C'est comme si pour essayer de trouver une manière de nous piquer ou de nous attaquer en voulant dire, nous, on adore ça, mais vous, regardez qu'est-ce que vous faites. Vous faites ci, vous faites ça. Oui, en voulant dire, vous avez votre religion, c'est une religion sauvage. Vous tuez des gens, vous faites des attentats. Alors que ces choses-là sont, sont, sont pas des choses qui font partie de l'islam. Et qu'est-ce que Ben Laden fait? Et Ben Laden lui-même n'a rien à voir avec la religion musulmane. Mais étant donné, et quand on leur explique, ils comprennent et ils le savent que ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais étant donné que ça rentre dans leur intérêt de savoir que ce mensonge-là est propagé et que beaucoup de gens y croient, donc ils l'utilisent comme une arme. Hein, pour se défendre contre l'islam lorsqu'on détruit les fausses croyances qu'ils ont. Donc ils essaient de dire, bon, puisque vous dites que votre religion c'est la vraie, eh bien, on va utiliser l'argument, qu'est-ce que les médias propagent de mensonges contre vous. Même si c'est pas vrai, on s'en fout, l'important c'est juste qu'on veut pas suivre qu'est-ce que vous nous dites. Hein? Tous les moyens sont bons pour rejeter la vérité, comme on dit, même le mensonge. Allah musta'an. Donc ensuite qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit والناس في جاهلية جهلا ومقالات يظنوها علما وهي جهل وأعمال يحسبونها صالحا وهي فساد وغاية البارع منهم علما وعملا وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين وقد اشتبع عليهم حقه بباطله. Oui, non, je comprends. Donc le cheikh il dit les gens étaient dans une ignorance profonde et ils se basaient sur des paroles ou des choses qui ont été mentionnées que eux pensaient ou considéraient comme étant de la science alors que c'est de l'ignorance. Et ils se basaient sur des actions que eux pensaient être bonnes, alors que c'est de la corruption. Et l'intelligent parmi eux, hein, et le but ou l'objectif de l'intelligent parmi eux, dans la science et dans l'action, c'est d'arriver à obtenir un petit peu de la science qui a été héritée des prophètes précédents. Mais même dans ça, il y a un mélange. Pour eux, ils sont confus. Hein, ils sont dans la confusion en ce qui concerne ce qui est vrai ou faux à son sujet. C'est-à-dire le petit restant de traces de ce qui leur est parvenu des prophéties précédentes, des prophètes précédents, ils essaient de le chercher, ceux d'entre eux qui cherchent, qui étaient intelligents, ils cherchaient ça, mais une fois qu'ils l'obtenaient, ils ne pouvaient pas distinguer dans ce qui est transmis ce qui est vrai ou faux là-dedans. Et c'est ça la réalité des chrétiens et des juifs aujourd'hui, c'est ça. Parce que tu vois dans leur livre des choses, ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui est vrai ou faux dedans. En particulier les chrétiens et même les juifs. Donc c'est pour dire que des fois tu les écoutes quand ils font leur prêche. Ils prennent des choses, des versets. Tu vois le pasteur il sort un verset dans la Bible. Puis là il commence à l'expliquer. Mais il s'en va dans des explications. Tu écoutes qu'est-ce qu'il dit, tu dis, mais ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que le verset dit. Il s'en va loin, 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 loin avec ce verset-là, alors que ça n'a aucun rapport. Hein? Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'il joue avec la parole d'Allah pour égarer les gens. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là. Il dit, « وَهَدَ شَأْنُ كُلِّ مَنْ لا يستند في قوله وعمله إلى وحي الله عز وجل الذي بعث به إلى رسله عليهم الصلاة والسلام لا يستطيع أن يميز بين العلم والجهل والصلاح والفساد. Donc le cheikh il dit, ça c'est la situation et c'est l'état de la personne qui ne revient pas à dans sa parole et dans ses actions, il ne revient pas à la révélation d'Allah que Allah a envoyée par l'intermédiaire de ses messagers. Donc, il n'est pas capable de distinguer entre qu'est-ce qui est de la science et qu'est-ce qui est de l'ignorance, et entre qu'est-ce qui est de la réforme et qu'est-ce qui est de la corruption. Pour lui, tout est mélangé. Et il dit wa inna ghayata al-bari' al-hadith minhum أن يكون عنده شيء من العلم الموروث عن الأنبياء السابقين ومع هذا فإنه يخلطه بكثير من الخرافات والضلالات المليئة بالشبهات حتى يضيع نفسه ويضيع الآخرين معه وهذا هو حال قسم من الذين عاشوا قبل الإسلام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الذي أنار به الله الظلمات وأخرج به العباد من هذه المتاهات التي سادت في تلك الفترة المظلمة من عمر البشر من عمر البشرية والتي وصفها الشيخ بالجاهلية الجهلاء. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit, tandis que celui qui est parmi eux qui était intelligent à cette époque-là, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui d'entre eux qui possédait un peu de la science de ce qui a été hérité des prophètes précédents, mais malgré ça, il le mélangeait avec beaucoup de superstition, beaucoup d'égards, c'était rempli d'égarements et de shubuhat, et à un tel point qu'il se perdait lui-même dans ces histoires. Et il perdait avec lui les autres. Il mélangeait avec lui les autres et les égarait aussi. Et ça, c'est l'état d'une partie des gens qui vivaient avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant que Allah subhanahu wa ta'ala éclaire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam les ténèbres et qu'il fasse sortir les serviteurs de cette noirceur et de ces ténèbres dans lesquelles ils vivaient et qui régnaient à cette époque-là, une période de ténèbres et d'obscurité qui était une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité, et que le Cheikh Ibn Taymiyyah a décrit comme étant une ignorance profonde. أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع وأكثره مبتدع أو يكدح بنظره كدح المتفلسفة فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق حتى يصل إذا وصل بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نزر قليل مضطرب لا يروي غليلا ولا يشفي قليلا ولا يغني من العلم الإلهي شيئا باطله أضعاف حقه إن حصل وأن له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب. Ça c'est le passage numéro 20. Donc il y a des passages que j'ai lus, mais j'ai pas mentionné le numéro. Bon, vous allez comprendre que c'était les passages 18, 17, 18 et 19. Là, on est rendu au passage numéro 20. On va le traduire pour savoir qu'est-ce que ça signifie. Et ce passage est très intéressant aussi. Allez, tous les passages sont intéressants. Mais celui-là en particulier, il mentionne des points très, très importants. Il dit que, ou bien c'était quelqu'un qui essayait de faire quelques actions, quelques travaux. Peu d'entre ces actions-là et peu d'entre ces œuvres-là faisaient partie de ce qui a été légiféré. Et la plus grande partie de cette action-là fait partie de ce qui est innové. Ou bien il essaie d'obtenir ou d'arriver à un objectif ou à un but quelconque à la méthode des philosophes. Et donc, il se perdait et il fondait dans les affaires qui ont rapport avec les sciences naturelles, d'observer la nature, d'observer les choses pour essayer de comprendre comment fonctionne le monde, comme les physiciens aujourd'hui, puis comme les professeurs de chimie, de physique qui essaient d'observer la nature pour savoir comment ça fonctionne, la physique, la chimie, la biologie et ainsi de suite, ou bien les mathématiciens. Il cherchait dans les calculs, les mathématiques, la géométrie, les trucs comme ça. Ou bien dans les choses qui ont rapport avec le comportement, pour essayer de corriger les comportements. Et s'il arrive, et jusqu'à ce qu'il arrive, s'il était capable, avec beaucoup d'efforts, et après beaucoup d'efforts, il obtenait juste une petite goutte, un petit résultat, de ce qu'il réussissait à obtenir de bien, mais même dans ce petit résultat-là, il était confus, il était mélangé, et il n'était pas, ça pouvait pas étancher sa soif, et ça pouvait pas remédier au réel problème. Et la science qu'il avait obtenue de ce qu'il avait fait comme observation et calcul ou autre, eh bien, ça ne pouvait pas l'amener à être exempt d'avoir besoin de la science divine. De la, à dire que j'ai pas besoin de. Il y en est arrivé à un point où j'ai pas besoin de la révélation ou de la religion divine. Il dit que même qu'en réalité, la fausseté qui était dans ce qu'il découvrait ou dans ce qu'il trouvait était des milliers de fois plus grande que la vérité qu'il réussissait à obtenir s'il obtenait quelque chose même. Et il dit, donc comment ? Il dit, وَأَنَّ لَهُ ذَلِكَ مَعَ كَثْرَةِ الْإِخْتِلَافِ بَيْنَ أَهْلِهِ. Donc comment pouvait-il arriver à même obtenir une chose qui est vraie dans tout ça, alors que dans les gens parmi ces gens-là qui pratiquaient, disons, la philosophie, puis ce genre de méthode, entre eux-mêmes, ils n'étaient pas d'accord. Et ils se divergeaient tous les uns contre les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils se basaient sur aucune preuve. Et ils n'avaient pas les moyens d'obtenir une preuve quelconque. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant cette parole de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, le Cheikh, il explique, il dit, وَمِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مَنْ كَانَ يَشْتَغِلُ بِعَمَلٍ قَلِيلُهُ مَشْرُوعُ وَأَكْثَرُهُ مُبْتَدَعُ لَمْ يَشْرَعْهُ اللَّهُ وَمِثَالُ ذَلِكَ الْحَجُّ فَإِنَّ الْعَرَبَ كانوا يحجون إلى البيت والحج من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن لم تكن شعائر الحج عندهم تخلو من مظاهر الشرك ومن وما يصاحبها من البدع الكثيرة وما يصاحبها من البدع الكثيرة ويقولون لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فكانوا يدخلون الشرك في التلبية فهم يمزجون أو يمزجون الحق بالباطل الحق القليل بالباطل الكثير. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit, par exemple, parmi les gens de la Jahiliya, il y en a qui faisaient des actes et des œuvres, mais très peu d'entre ces œuvres-là étaient légiférées, et la plupart de ces œuvres et de ces pratiques étaient innovées. Allah ne les avait pas légiférées. L'exemple de ça, c'est le Hajj. Les Arabes, avant l'islam, ils pratiquaient le Hajj. Ils venaient à la Kaaba pour faire le pèlerinage. Parce que le pèlerinage faisait partie des restants de la religion d'Abraham. Mais, le Cheikh, il dit, mais les pratiques qu'ils faisaient et les rites qu'ils pratiquaient dans le Hajj n'étaient pas exempts de plusieurs manifestations de shirk. Et ils avaient mélangé dans ce Hajj beaucoup d'innovations. Et par exemple, dans At-Talbiya, il disait par exemple, La bayka la sharika laka illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Alors que nous aujourd'hui on dit La bayka Allahumma la bayka la sharika laka la bayk. Ça veut dire, nous répondons à ton appel, nous voilà. Nous voilà, ô Allah, nous voilà, nous répondons à ton appel, et tu n'as aucun partenaire. La bayk ala sharika lak ala bayk. Donc, c'est pour dire qu'on disait ça, on dit ça de cette façon pour dire que Allah n'a pas d'associé, n'a pas de partenaire, et c'est lui seul qu'on adore. Tandis que les idolâtres de la Mecque, à l'époque, avant l'islam, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, La Bayk, nous répondons à ton appel, tu n'as pas de partenaire, excepté un partenaire qui est à toi, que tu possèdes et dont tu possèdes tout ce qui lui appartient. C'est-à-dire qu'il disait comme si en voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des partenaires, mais ses partenaires, c'est lui qui les possède. Et qui possède ce que ces partenaires-là possèdent aussi. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'en fait, eux, ils considèrent que les idoles qu'ils adoraient étaient des associés avec Allah et des partenaires et des intercesseurs et des intermédiaires. et qu'ils pensaient que c'était permis pour eux d'adorer Allah en passant par ces intermédiaires-là pour arriver à Allah. Et ça, ça vient réfuter aujourd'hui les groupes et les sectes parmi les musulmans qui disent « Nous, on fait pas de shirk, parce que quand on passe par les saints et quand on adore les saints et les hommes pieux, on croit pas que ce sont eux qui ont créé le monde. On croit que c'est Allah qui a créé le monde. Donc, ça dérange pas qu'on demande à un saint. Tu comprends? C'est comme par exemple... Non, je comprends, je sais que tu comprends, mais juste pour clarifier plus. Comme par exemple, ils vont se prosterner devant leur cheikh. OK? Mais ils vont dire, c'est pas grave qu'on se prosterne devant notre cheikh et ça, c'est pas de l'adoration. Pourquoi? Parce que on sait que ce cheikh-là, il n'a pas créé le monde. Donc, c'est pas du cheikh de se prosterner devant lui. Et ça, de dire ça, c'est de l'ignorance et de l'égarement. Parce que même si tu ne crois pas que ce cheikh-là, il a créé le monde, c'est quand même du shirk et c'est quand même de l'idolâtrie. Et la preuve que c'est quand même de l'idolâtrie, c'est que même les idolâtres de la Mecque, hein, ils disaient justement « Labbaik, la sharika lak, labbaik, la sharika lak, illa sharikan huwa lak, yani tamliku huwa ma malak. » Excepté un partenaire qui t'appartient, et tout ce qui lui appartient t'appartient aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets dans le Coran, il dit wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaquluna Allah. Si tu leur demandes qui avait créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset, il dit قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. C'est-à-dire, dis au Muhammad à ces gens-là, hein, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, et qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et qui fait sortir le mort du vivant, et qui dirige toute l'affaire, ils diront Allah. Hein? Ils répondront Allah. Alors dis-leur, ne le craignez-vous donc pas, et n'allez-vous donc pas cesser d'adorer d'autres que lui, et adorer que lui seul. Donc c'est pour dire, les idolâtres de la Mecque, ils savent que c'est Allah seul qui a créé, et que les idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah n'ont le pouvoir sur quoi que ce soit. Et malgré tout, ils les adorent en dehors d'Allah parce qu'ils disent hein, « Ma na'abuduhum illa liyuqarribuna illallahi zulfa » On les adore uniquement pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Hein? Comme les chrétiens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset « Wa ya'abuduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'indallah » قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. C'est-à-dire, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Ça veut dire quoi? Les idolâtres de la Mecque, ils adoraient des idoles, ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah. Ils savaient que ces idoles-là ne peuvent ni leur nuire ni leur profiter. Aujourd'hui, les gens, par exemple parmi les soufis et d'autres, parmi les rafidas, ils adorent les descendants de Ali, ou bien ils adorent les awliya, les saints, les hommes pieux et les sayyids. À leur tombe, ils disent, non mais nous on sait qu'ils ne peuvent pas nous nuire, ils ne peuvent pas nous profiter. Mais on demande qu'ils nous rapprochent d'Allah, ou bien qu'ils nous donnent la baraka, ou des choses comme ça. Ça c'est du shirk. C'est la même chose que les idolâtres à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient avec leurs idoles. Ils disaient, ils ne peuvent pas ni nous nuire ni nous profiter. Hein? Donc Allah il dit, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit ensuite, dit, allez-vous apprendre à Allah ce qu'il ne connaît pas, ni dans les cieux ni sur la terre, qu'il soit glorifié de ce que vous lui associez. Hein? Donc c'est pour dire que ces gens-là, en réalité, ils adorent en dehors d'Allah des choses. Et ça, c'est, peu importe que ce soit des choses qu'ils considèrent être, yani des, des idoles ou des saints ou des hommes pieux ou autres, yani, du moment qu'ils les adorent en dehors d'Allah, c'est du shirk. Hein? Et les idolâtres de la Mecque, c'était la même chose à l'époque. Donc, ils disaient ça, c'est ça, ils avaient introduit ça dans At-Talbiya, puis ils faisaient rentrer du shirk dans leurs paroles, dans le rituel du Hajj, et ils mélangeaient la vérité avec le faux. Et la vérité qu'ils avaient était petite, mélangée avec beaucoup de fausseté. Après le cheikh il dit وقسم آخر من أحوال الناس قبل البعثة فالقسم الأول هم أهل الكتاب على ما هم فيه من ضلال وتحريف وتبديل والقسم الثاني المجوس الذين كانوا يعبدون النار ويقال إنه كان لهم كتاب ثم رفع فإن لهم شبهة كتاب والقسم الثالث العرب الذين كانوا يعبدون من دون الله آلهة متعددة والقسم الرابع من عندهم بقايا من دين إبراهيم يخلطونها بالشرك والقسم الخامس الفلاسفة وهم الحكماء والفلسفة معناها محبة الحكمة فالفلاسفة هم الحكماء الذين ينظرون في الأشياء ويستنتجون منها المعاني والعبر ويتنسكون بترك الملذات والشهوات من أجل أن تصفو قلوبهم وما أشبه الصوفية بهؤلاء الفلاسفة فإنهم يتركون الملذات والمطاعم والمشارب أو يقللون من تناولها من أجل أن تصفو أذهانهم وترق قلوبهم بزعمهم فكل هذا دون مستند من كتاب أو سنة وإنما كان الدليل عندهم ما تتفتق عنه أذهانهم وما تمليه عليهم نفوسهم التي يزعمون أنها صفت وأنها أدركت الحقيقة وأنها إلى آخره. Donc le cheikh il explique, il résume ensuite, et on va finir avec ça. Le cheikh il dit, et il y a une autre catégorie. Donc ça c'est une autre catégorie, ce qu'on vient de décrire. C'est les gens de la Jahiliya, hein, qui avaient des restants de la religion d'Abraham. Ils faisaient le Hajj. Et en plus, même en plus de ça, pendant le Hajj, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sifflaient puis ils frappaient des mains et ils faisaient le tawaf sans vêtements. Les hommes et les femmes. Donc ils arrivaient devant la Kaaba, ils enlevaient leurs vêtements, puis ils tournaient autour de la Kaaba, ils sifflaient, puis ils tapaient des mains. Ça c'est la religion des mouchriquins. Vous imaginez? C'était vraiment yani, le désordre. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Donc il dit, le cheikh il dit, donc là il va tout mentionner les catégories de ceux dont on a parlé depuis le début. Parmi les gens de la Jahiliya. Donc le premier groupe, hein, il dit, le premier groupe, c'est les gens du livre qui avaient un livre, mais qui étaient dans l'égarement, parce qu'ils avaient des falsifications et des modifications dans ce livre-là. Donc le livre n'était pas dans son état pur. La deuxième catégorie, c'est les Majus, c'est-à-dire ceux qui adoraient le feu. Et on dit à leur sujet qu'ils avaient un livre, mais qu'il a été enlevé par la suite. Donc, ils ont un semblant de livre. La troisième catégorie, c'est les Arabes qui adoraient plusieurs divinités. Ok, plusieurs divinités. Des fois, les koufars, ils utilisent le terme en français, les polythéistes. Les polythéistes, c'est-à-dire ceux qui ont plusieurs divinités. Mais il faut comprendre ici que polythéiste, c'est un terme qui est très vague. Ça décrit pas la signification du terme shirk. Parce qu'ils appellent pas, par exemple, les chrétiens, ils appellent pas des polythéistes, alors qu'en réalité, selon l'islam, ce sont des polythéistes, puisqu'ils adorent plus d'autres que Allah. Hein? Et la même chose pour les juifs. Et pour yani, ces gens-là donc, sont considérés aussi parmi les polythéistes puisqu'ils adorent des saints et des tombes et des choses de ce genre. Donc tous ceux qui adorent autre avec Allah, c'est des polythéistes ou c'est des mouchrikounes. Okay? Mais c'est des catégories de mouchrikounes. Les gens du livre sont classifiés parmi les idolâtres, sauf que ils sont une catégorie spécifique parmi parmi les idolâtres qui ont reçu un livre. Et étant donné qu'ils ont reçu un livre, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une position particulière parmi les koufars. C'est pour ça des fois que vous allez rencontrer certains musulmans qui vous disent non, il ne faut pas dire que les gens du livre sont des koufars. Hein? Alors que oui, ils sont des koufars et ils sont des mouchrikines. Mais pourquoi Allah les a appelés des gens du livre? C'est justement pour que lorsqu'on leur fait la da'wa, on leur mentionne le fait qu'ils ont un livre. Donc ils sont plus proches de l'islam que les autres mouchrikines. Et donc c'est pour ça qu'ils ont ce statut particulier là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des croyants ou qu'ils ne sont pas des koufars à cause de ça. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre les gens du livre sont mélangés à cause de ça. Et certains parmi les musulmans justement utilisent cette confusion là pour essayer de tromper les gens à leur sujet. Non, ça le dit, c'est quelqu'un qui a rejeté la vérité. C'est-à-dire, depuis que quelqu'un ne croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant un vrai prophète et qui n'accepte pas de le suivre, hein, parce qu'il y en a parmi les chrétiens ou les juifs, tu leur parles, tu dis, est-ce que tu crois au prophète Mohammed? On dit, oui, je crois. Mais ok, mais pourquoi tu ne le suis pas alors? Hein, si tu ne le suis pas, ça dit, tu n'as pas cru en lui. Parce que le croire, ça ne veut pas juste dire oui, je crois qu'il y a un prophète, puis tu t'arrêtes là. Non, il faut que tu, si tu dis que je crois qu'il est un prophète, maintenant il faut que tu suives sa sunna. Hein? Et il y a également la catégorie numéro 4. C'est ceux qui, parmi les gens, parmi les mouchriquins, les arabes, ceux qui restaient sur des traces de ce que Abraham avait laissé comme religion, sauf qu'il l'avait mélangé avec du shirk. Ça, c'est la catégorie qu'on vient de décrire là maintenant. Ceux qui faisaient le hajj, mais qui mélangeaient avec leur hajj plein de formes de shirk et des bid'a. Et il y a une cinquième catégorie, c'est la catégorie des philosophes. Et les philosophes, ce sont, en arabe, on les appelle yani al-falasifa, ou bien on les appelle al-hukama, les sages. Et en fait, le mot falsafa, ou philosophie en français, ça signifie l'amour de la sagesse. Parce que philo, en grec, ça veut dire aimer. Hein? Philo, al-falasifa. Et al-hukama. Al-hukama, c'est le pluriel de hakim. Puis le singulier de falasifa, c'est philosophe. Vous comprendrez que ce sont des mots d'origine grecque. C'est-à-dire le mot falasifa vient du grec, il vient pas de l'arabe. Il y a beaucoup de termes justement dans les termes des gens de Kalam, lorsqu'ils parlent dans leur livre de Ilm al-Kalam, ils se basent beaucoup sur la philosophie, donc beaucoup des terminologies qu'ils utilisent sont d'origine grecque. Ils mélangent le grec avec l'arabe. Donc, c'est comme par exemple de Platon, Aristote et les autres, hein, les autres philosophes. Donc, on les appelle les sages, et la philosophie signifie l'amour de la sagesse, mahabbatul hikma. Parce que philo, ça veut dire aimer, puis sophia, ça veut dire la sagesse. Donc, les philosophes, ce sont les sages, c'est-à-dire ceux qui regardent les choses et qui essaient d'extraire des choses qu'ils observent. Des significations et des leçons. Et parmi les aspects qu'ils ont dans leur pratique religieuse, c'est qu'ils ont l'idée qu'il faut abandonner les plaisirs et les désirs de la vie pour purifier leur cœur. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle, yani, beaucoup d'entre les philosophes, en fait, même à l'époque des Grecs et autres, ils avaient ça comme philosophie ou comme idéologie. C'est qu'ils ont l'idée que leur corps à l'intérieur de leur corps, il y a une âme, que cette âme, elle est emprisonnée dans la chair, que cette chair, elle est impure, elle est mauvaise, et que l'âme, elle est pure, et qu'elle fait, comme certains même disent parmi eux, que ça fait partie, ils pensent que ça fait partie de Dieu, que cette âme-là, elle vient de Dieu, qu'elle est divine, qu'elle doit se libérer de son corps, ou de cette prison de chair, pour redevenir un avec Dieu. Un peu comme les soufis avec l'idée de nirvana, les bouddhistes et les hindous. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour arriver à se purifier, soi-disant ? Abandonner la nourriture, abandonner les plaisirs charnels, abandonner les choses de la vie d'ici-bas, puis s'adonner juste à la contemplation, l'observation du monde, l'adoration et des choses de ce genre. Hein? Et donc, l'étude aussi de la science, l'étude de la nature, l'observation de la nature. À l'époque des Grecs, à l'Antiquité, la science, c'était pas comme, pour eux, c'était pas comme quelque chose de pratique. C'était juste basé sur l'observation. Et ils argumentaient et débattaient entre eux sur des choses juste par la pensée. Mais ils faisaient jamais de tests pratiques pour vérifier est-ce que c'est vrai ou non. Donc, beaucoup des livres de philosophie, tu lis dans les écrits de ces philosophes-là, ils vont te parler de trucs. Juste, ils parlent selon qu'est-ce qu'ils pensent, selon leurs idées. C'est seulement plus tard, après, que les gens ont pensé à faire des tests pour vérifier est-ce que c'était vrai ou non. Donc, il y a différentes catégories de philosophes et des sujets qui sont traités dans la philosophie. Il y a les aspects de, justement, des mathématiques et de l'étude de la géométrie et des trucs comme ça. Il y a un aspect qui a rapport avec la nature et la science naturelle et les éléments. Puis il y a un autre aspect qui est de parler des choses qui sont au-delà de la matière, qu'est-ce qu'ils appellent la métaphysique, c'est-à-dire tout ce qui est transcendant, de parler des divinités, de qu'est-ce qui a rapport avec les dieux et des choses comme ça. Et c'est pour ça que eux, ils se basent sur beaucoup des philosophes soi-disant islamistes, en réalité c'est des... Souvent, c'est des hérétiques ou des gens de Kalam. Ils se basent sur ce que les Grecs avaient écrit dans cette catégorie-là, la métaphysique. Puis, dans les paroles des philosophes à ce sujet-là, il y a plein d'ignorance et plein d'égarements. Parce qu'ils ne se basent pas sur la révélation. Ils se basent sur leur logique et sur leur raison, sur leur aql, ou sur leur imagination, ou sur leurs émotions, ou sur leurs sentiments, ou sur leurs passions. Donc, de se baser sur ce que ces gens-là ont dit, c'est de l'égarement, c'est de l'ignorance. Malheureusement, il y en a qui se sont basés là-dessus. Le cheikh, il dit que, donc, les soufis, parmi les soufis, il y en a qui se sont basés sur l'exemple des philosophes. Et c'est là, au moment où, au début, comme j'ai expliqué, au début c'est-à-dire, après l'époque des Sahaba et des Tabi'in, il y a une catégorie qui s'est développée dans la région de l'Irak. Une catégorie de personnes ou un groupe de personnes qui ont commencé à se distinguer des autres en s'attachant plus à l'adoration. Puis au fur et à mesure qu'ils ont évolué, ils ont inventé ou rajouté dans la religion des innovations. Et des innovations de plus en plus graves. Au début, c'était des innovations par rapport, par exemple, à l'adoration, comme rajouter des tambours dans l'adoration. Et l'imam Shafi'i à l'époque, il a parlé de cet exemple-là. Il dit, j'ai laissé en Irak des gens qui font qu'est-ce qu'ils appellent at-tarbir. C'est-à-dire, ils rajoutaient du tambour dans leur zikr. Et il a décrit ça comme étant de l'égarement, tu vois. Après, ça s'est développé encore plus et ça s'est dégénéré encore plus. Et quand les gens de Kalam sont rentrés et les Bataniyoun sont arrivés avec leurs croyances d'égarement et leur interprétation philosophique, après il y a eu les Mu'tazila et les Jahmiya et les, hein, ben eux ils ont incorporé ça dans le soufisme et ils se sont fait des croyances secrètes en eux, entre eux, pour interpréter le Coran et la Sunna. Donc certains d'entre eux ont dit, hein, ont cru en qu'est-ce qu'ils appellent Al-Hulul, que Dieu, à un moment donné, si tu adores beaucoup Allah et que tu t'écartes des plaisirs de la vie, que tu arrêtes de manger, que tu arrêtes de t'approcher des femmes, à un certain moment donné, tu vas devenir un avec Allah. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils appellent Al-Ittihad. Il y en a d'autres qui ont parlé de qu'est-ce qu'ils appellent al-fana, de se dissoudre en Dieu, hein, de fondre en Dieu, de se dissoudre en Dieu. D'autres qui ont parlé de wahdatul wujud même, c'est-à-dire de l'unification ou de l'unité de l'existence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence pour eux entre le créateur et la créature. Pour eux, Allah est tout et tout est Allah. Et donc, ça c'est pour eux yani, le top de la croyance. Et pour eux, c'est ça le tawhid. Exactement. Donc, eux, ils disent que pour eux, le tawhid, c'est pas par quoi la religion commence. Pour eux, le tawhid, c'est par quoi tu arrives à la fin. Hein? C'est un objectif, puis à la fin, le but, c'est d'arriver à comprendre ou à croire ou à sentir qu'il n'y a pas de différence entre quoi que ce soit et que tout ce qui existe, c'est Dieu et toi, tu fais partie de Dieu. Donc ça c'est du shirk, et les ulama ont dit que ça c'est la plus grande de toutes les formes de kufr et de shirk, c'est ça. Parce que imaginez, comme les ulama ont dit, comme Yani Ibn Taymiyyah et d'autres. Ah oui, parce que les ulama ont dit, si le fait que les chrétiens ont dit que Jésus est Dieu, ou que Dieu s'est incarné en lui, que Allah a déclaré ça comme étant shirk et kufr, et que Allah les a maudits pour ça, imaginez celui qui dit que Dieu est dans tout et dans tous les êtres humains, les croyants et les non-croyants et les animaux et les chiens et les chats et les porcs et les toilettes et toutes les saletés. Et c'est pour ça, une fois j'ai rencontré un soufi à Montréal ici, il venait de la Guinée, je l'ai rencontré et il faisait partie de ceux qui allaient chez les Naqshbandi, la tariqa Naqshbandiya. Mais ne croyez pas que c'est quelque chose qui est spécifique aux Naqshbandi. Toutes les turuq soufiyas ont cette croyance. Toutes les turuq, sans exception. C'est pour ça ceux qui vous disent, non, nous on est des soufis, mais on suit la sunna seulement. Ça c'est des menteurs, c'est des mensonges. Parce que déjà, depuis que tu dis le mot soufi, ça veut dire bid'ah. Puisqu'il n'y a pas de soufisme qui est propre ou qui est exempt d'égarement et de bid'ah aujourd'hui. Sauf que comme les ulama l'ont dit, il y a deux catégories de soufis à notre époque. Il y a ceux qui sont mubtadi', hein, qui ont des bid'ah, mais qui ne les fait pas sortir de l'islam. Puis il y a d'autres soufis qui sont des hérétiques, hein, des égarés, des soufis extrémistes. Ceux-là sont à l'extérieur de l'islam. Comme ceux qui croient que Allah est tout et que tout est Allah. Ça c'est wahdatul wujud. Les ulama disent que ceux-là sont des kuffars. Ou ceux qui croient que leur cheikh connaît le ghaib, ou qui peut contrôler l'univers, comme quand il arrive à un degré de saint, comme il l'appelle al-qutb ou al-rawth. Il dit si, quand il arrive à ce degré-là, c'est lui qui dirige l'univers, et c'est lui qui contrôle le monde. Et si tu invoques, tu dois invoquer lui, pas Allah. Ça, c'est sorti de l'islam carrément, ça, c'est du shirk, hein. Et ces gens-là, ils ont interprété l'islam à la manière des philosophes. Ils ont introduit dans l'islam des croyances ésotériques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Oui, on peut dire qu'ils sont pires que les chrétiens. Et beaucoup d'ulama, ils ont dit ça, qu'ils sont plus mécréants que les juifs et les chrétiens. Ils sont plus dangereux pour les musulmans que les juifs et les chrétiens. Parce qu'ils sont en dedans de l'islam, ils peuvent tromper les musulmans plus facilement que des juifs ou des chrétiens ou des hindous ou des bouddhistes, hein. Donc, ça c'est la catégorie des, il y en a ceux qu'on appelle les soufis qui sont influencés par les falasifas. Donc, ils veulent arriver à ce niveau-là. Et le cheikh, il dit tout ça, il n'y a aucune preuve pour supporter ça, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Mais, ils ne font que se baser sur ce qu'ils ont comme penchant dans leur âme et ce que leur imagination a compris dans ce qu'ils ont développé dans leurs imaginations et dans leur esprit, et ils pensent avoir découvert la réalité de l'islam dans ces choses-là. Et allez, après le cheikh dit wa min huna jaa wasful ash-shaykh li 'ilmi ahadihim bi qawlihi la yarwi ghalilan wa la yashfi min al-'ilm al-ilahi ay annahum wa in hassalu shay'an min al-fahm wan-nazar fa innahu la yakfi. Donc c'est pour ça que le cheikh Ibn Taymiyyah, il a dit à propos de l'un d'entre ces gens-là, que la science qu'il a obtenue n'arrive pas à enlever la soif, ni à remédier au problème, au point de se passer de la science de la révélation divine. Et donc le cheikh il dit, c'est-à-dire que même s'ils ont obtenu ou reçu une forme de science quelconque ou une compréhension quelconque, eh bien cette connaissance et cette compréhension n'est pas suffisante. Il dit « Wa qawluhu wa batiluhu adhafu haqqihi in hasal wa anna lahu thalik » إشارة إلى أن الحق عندهم معدوم لا سيما والفلاسفة مختلفون فيه فيما بينهم ولا يجمعهم رأي ولا تضمهم طريقة واحدة وإنما هم متشبعون أو متشعبون في أفكارهم وآرائهم وهذا شأن كل من لا يكون عنده كتاب إلهي ووحي منزل. Donc le cheikh il dit, et Ibn Taymiyyah a dit que le faux qu'ils ont est mille fois plus grand que la vérité, s'ils arrivent à obtenir une vérité quelconque, et comment pourraient-ils arriver à cela. Donc le cheikh il dit, il veut dire par cela que la vérité qu'il y en ait chez eux, elle est absente. Ils n'ont pas de vérité. En particulier, si on tient compte du fait que les philosophes, entre eux, sont tous divergents. Il n'y a pas une opinion qui les unit. Et il n'y a pas une voie unique qui les rassemble. Ils sont tous dans des branches différentes de pensée et d'opinion. Et ça, c'est la réalité de toute personne qui n'a pas de livre divin ou qui n'a pas de révélation. Oui, en général, tous les philosophes. Parce que les philosophes, c'est comme ça. Et je me rappelle quand on était au collège, puis qu'ils nous donnaient les cours de philosophie, il y a toujours des courants philosophiques. Et chaque fois qu'il y a un philosophe qui a une idéologie, quand sa philosophie arrive, elle devient populaire, les gens l'adoptent. Ah, ça c'est la philosophie qu'on prend maintenant. Quelques années après, il y en a un autre qui arrive, qui détruit la philosophie du premier, puis qui ramène une nouvelle. Et là, les gens disent, ah, celle-là est meilleure que l'autre, maintenant on va prendre celle-là. Et c'est comme ça la philosophie. Eh, Allah al-Musta'an. Non, c'est parce que les koufars de l'Occident, ils ont utilisé la philosophie pour détruire la croyance des gens. À la base, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont utilisé la philosophie, parce que la philosophie c'est pour jouer avec la tête des gens. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que disons que même les chrétiens, leur base théologique est basée sur la philosophie. C'est comme les gens de Kalam. Parmi les musulmans, les Asha'ira, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiya, leur fondement, c'est la philosophie des Grecs. Et les Soufis, la même chose. Ils sont tous basés sur la philosophie. Donc, la même chose pour la théologie chrétienne. Si tu vas aller étudier la théologie dans les universités chrétiennes, les prêtres, les pasteurs, tous ces gens-là, pour devenir prêtres, ils doivent étudier la théologie. Et la théologie est basée sur la philosophie. Tandis que l'islam, la pureté de l'islam, la vraie aqida de l'islam, elle est basée sur la révélation du Coran, de la sunna seulement. Tandis que eux, non. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah a combattu ces gens-là. Ils n'ont pas de base. Mais eux, ils pensent qu'ils ne peuvent pas se passer de la philosophie pour comprendre ou pour connaître qui Dieu est. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait faux. Exactement. Ils tournent en rond. Exactement. Exactement. Et Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre de réfutation des philosophes. Ça s'appelle Dar al-Ta'arud bayna al-Aqli wal-Naql. Puis il a aussi d'autres livres, des plus petits livres, mais Dar al-Ta'arud, c'est un livre vraiment, je pense que c'est 11 volumes. Tu vois? Et il a détruit toutes les philosophies, toutes les philosophes, de ceux qui se disent des philosophes musulmans, entre guillemets, hein, ou bien même des philosophes chrétiens. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.